Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaires de Radio Foot International, bien sûr, et avec bien sûr notre duo incomparable qui est si populaire en Afrique. Je peux vous dire que à Abidjan, notamment, on nous écoute beaucoup. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous les Ivoiriens.
Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie, bonjour à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qui nous écoutent.
Ouais, je crois qu'ils sont nombreux. Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour aux Ivoiriens, bonjour à tous de l'Afrique et tous les Marseillais qui nous écoutent. Et il y en a beaucoup.
Oui, ça c'est sûr. Alejandro Valente, alors il y a beaucoup de Marseillais Ivoiriens en plus, ou d'Ivoiriens Marseillais, c'est, ça va dans les deux sens. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Annie et Gasnier, bonjour à tous.
Notre réfé à tous. Au cœur des débats du jour, Cristiano Ronaldo dans la tourmente. L'affaire de viol où son nom est cité prend de l'importance avec la prudence affichée, bien sûr, depuis hier soir par son sponsor à vie, l'équipementier américain Nike. Cristiano Ronaldo nie, son entourage le soutient, mais la star préfère rester à l'écart de la sélection portugaise. Alors qu'en Italie, la Juventus soutient CR7 et demain, il jouera à Udinese. Tudo bene, a déclaré Massimiliano Allegri, mais quelles conséquences sur son image à quelques semaines du vote pour le Ballon d'Or 2018. Une seule victoire pour 6 matchs disputés. Les clubs français ne sortent pas grandis de cette semaine européenne, hormis le PSG, mais qui est un peu hors concours, vous le savez. Doit-on en déduire que la Ligue 1 est ainsi indirectement ridiculisée, que le championnat de France est un championnat de mauvais niveau? Enfin, les affiches du week-end avec en première ligue les Citizens qui vont chez les Reds et entre les Rouges et les Bleu Ciel. Une place en tête du championnat est en jeu et peut-être même déjà le titre de champion. Il faut savoir que City ne gagne pas à Anfield depuis 2003. En France, le PSG reçoit l'OL. Les Gaunes vont-ils être assommés par l'attaque tout feu tout flamme de Paris qui marque au moins 3 buts par match? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Radio Foot. Radio Foot, c'est parti.
Non. What they said today, fake news. You wanna promote by my name? It's normal. They wanna be famous to say my name. Yeah, but it's part of the job. I'm happy man, and all good.
La voix de Cristiano Ronaldo, c'est sur son compte Instagram et c'était mardi. La star portugaise réagissait aux informations qu'il associe à une affaire de viol. La police de Las Vegas a rouvert lundi une enquête autour d'une agression sexuelle datant de 2009 où une jeune femme d'alors 24 ans dit avoir subi un viol. Elle avait porté plainte avant qu'un arrangement financier ne mette l'affaire sous silence. Mais elle revient devant la justice civile, cette jeune femme, encouragé par son nouvel avocat, Alejandro. C'est une histoire qui ne termine pas, en fait, pour l'instant.
Oui, en fait, mais il n'y a pas que des propos. Il y a des documents, quand même, des choses écrites qui ont permis à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel de lancer cette affaire. Ce sont des documents qui avaient fuité dans l'affaire Football Leaks en début d'année dernière. Et ils avaient eu leur attention attirée par une lettre adressée par cette jeune femme, qui s'appelle Catherine Mayorga, à Cristiano Ronaldo, en liaison avec cette affaire. Donc il y a d'autres documents dans lesquels notamment les avocats de Cristiano Ronaldo auraient reçu des Cristiano par écrit un témoignage dans lequel il reconnaissait une relation consentante, mais il reconnaissait que la femme avait dit non à plusieurs reprises lui demandant d'arrêter, et ces documents évidemment pourraient peser lourd si la justice américaine décidait d'aller au fond de cette affaire et d'inculper éventuellement Cristiano Ronaldo. Pour l'instant on n'en est pas là, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais il y a quand même un ensemble des faits qui sont un peu troublants et qui ont conduit notamment les sponsors de Cristiano Ronaldo, vous l'avez dit, à réagir.
Oui, voilà, parce que la publication de l'affaire, en fait, elle est revenue à travers le journal allemand Der Spiegel la semaine dernière. C'était juste avant Juventus-Naples. Et il y a effectivement ces dernières heures des faits nouveaux. D'abord, Cristiano Ronaldo, en tout cas, évidemment, ses conseillers ont décidé de prendre pour avocat le défenseur des stars là-bas du côté de Las Vegas, à savoir David Chesnov, qui a déjà été l'avocat notamment de DiCaprio ou de Paris Hilton. Et puis les sponsors, peu à peu, Nike cette nuit a préféré bien la prudence, en parlant, alors qu'ils ont un contrat à vie, hein, en parlant d'être profondément, en disant être profondément préoccupé. Un autre sponsor pareil pour son partenariat avec des jeux vidéo. Et puis son entourage, alors on va l'entendre, son entourage qui prend sa défense, évidemment sa compagne, sa maman, mais aussi le sélectionneur portugais Fernando Santos, qui hier ne l'a pas convoqué, il ne serait pas convoqué pour les quatre prochains matchs de la sélection. Et évidemment, vous allez le comprendre en écoutant le sélectionneur, eh bien, c'est relatif à cette affaire.
Il y a eu une discussion à trois entre le joueur, le président de la Fédération portugaise de football et l'équipe nationale. Nous avons tous convenu au cours de cette réunion que le joueur n'était pas disponible pour ces deux rassemblements concernant les matchs à venir, celui qui vient et celui du mois de novembre. De toute évidence, les problèmes personnels engendrent des moments difficiles pour les joueurs, et cela s'est déjà produit. Et ça n'est pas une question de solidarité ou de non-solidarité. Le fait est que je crois ce qu'il a dit il y a deux ou trois jours. Il considère le viol comme un acte abject. Il a répété encore et encore qu'il était innocent et qu'il n'avait rien à voir avec ce dont il est accusé. Je connais très bien Cristiano Ronaldo, alors je crois totalement sa parole. Il ne commettrait jamais un crime de ce genre, je ne le crois pas.
Donc le plus grand, sans doute un joueur de la sélection portugaise, bien préfère pour l'instant se faire discret. Par contre, eh bien du côté de la Juventus, on apprenait ce matin des mots de Massimiliano Allegri, son entraîneur, que demain, normalement, alors que le club avait par ailleurs posté des images de Cristiano Ronaldo à l'entraînement avec ses camarades, eh bien il expliquait que demain il jouera.
Cristiano Ronaldo va très bien malgré toutes ses attaques. Je le connais depuis 3 mois. Et ce que je peux dire sur ses 15 ans de carrière, c'est qu'il est très professionnel sur le terrain, comme en dehors du terrain. Et puis, c'est quelqu'un qui s'investit dans le social. Pour ce qui est du match contre Udinese, il est prêt à jouer.
L'image parfaite de l'athlète et de l'homme est-elle en train de se fissurer, selon vous, Alejandro Valente?
En tout cas, c'est vrai que tous ces faits sont inquiétants, comme le fait que révèle Der Spiegel qu'un arrangement financier avait été conclu en 2010 avec la jeune femme en question qui avait reçu 375 000 dollars s'engageant en échange à ne plus parler de cette affaire et à ne pas poursuivre Cristiano Ronaldo, un accord que ses avocats actuels cherchent à rompre, estimant qu'elle avait signé ça dans un état de stress et de traumatisme psychologique. Donc tout ça est quand même compliqué, mais on voit à la réaction des sponsors quand même qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout, qu'il y a peut-être la crainte qu'il y ait quelque chose. Et il faudra voir comment Cristiano Ronaldo gère les semaines qui viennent, qui seront compliquées, parce qu'on peut imaginer que dans les stades ou dans les rassemblements, etc., le public pourra réagir et qu'il va être exposé quand même à une situation très compliquée à un moment de l'année où il espérait pouvoir se concentrer sur la quête du Ballon d'Or. Et le fait qu'il ait renoncé à jouer les matchs de l'équipe portugaise à cette période de l'année montre quand même que sa situation n'est pas très sereine.
Rémi, est-ce que, selon vous, ça, par exemple, compromet déjà le Ballon d'Or pour Cristiano? Est-ce que il y a une, c'est comme la calomnie, quoi, déjà quelque chose qui est dans l'air, comme ça l'a été pour d'autres personnes, pas seulement dans le monde du football?
Mais s'il y avait eu son Ballon d'Or après avoir été condamné sur la fraude fiscale, et là il n'est pas condamné, première des choses, et deuxième des choses, cette histoire, bien au contraire, est en train de vouloir de montrer encore jusqu'où certaines stars sont exposées à des chantages. Parce que le fait me parle tout de suite des faits concordants. Moi, je ne vois rien de concordant. Je vois plutôt tout est discordant. Parce que première des choses, voilà, j'imagine la belle Catherine qui qui est monté dans cet hôtel-là, une belle suite, a ligoté au niveau de ses tibias. Et j'imagine comment est-ce que King Kong Ronaldo est parti certainement. Attendez, j'essaie d'imaginer d'abord le scénario. King Kong Ronaldo, peut-être certainement, lui a donné 12 kilogrammes de drogue avant que elle ne s'en rende
compte. Vous êtes en train d'imaginer des choses.
Il y a des dépositions.
J'ai fini. Laissez-moi les dépositions. Attendez. Alessandro, vous n'étiez pas là pendant la déposition. La déposition n'est pas encore, c'est-à-dire que ce que... Alors, pour l'instant, je sais une chose, c'est que, première des choses, lorsqu'il y a un viol, première des choses, je sais qu'on court vers la police. Deuxième des choses, il faudrait qu'on produise...
Il y a eu un examen médical.
Cet examen médical, ce qui signifie qu'il faudrait donc le produire, mais cependant, comme beaucoup de gens sont en train de vouloir me faire comprendre qu'il y a eu ce viol-là avec cet examen médical.
Non, il y a des faits, mais on ne juge pas pour l'instant, évidemment.
Bon, moi, pour l'instant, je sais une chose, si vous dites que elle a été violée et que elle a pris 375 000 dollars et que par la suite, 9 ans après, elle revient pour demander encore de l'argent. Alors là, moi, ça commence à ressembler à une escroquerie à outrance. Deuxième des choses, je vais juste dire que quand on essaie de regarder certains faits, eh bien, Michael Jackson a été tué de la même façon, où finalement, il a été innocenté. J'ai vu d'autres stars qui sont passées par là. C'est-à-dire que, on fait un chapelet d'accusations.
On peut pas rendre quelqu'un coupable. On n'est pas la justice, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'est pas coupable. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
Sauf que vous avez exposé des faits. Et j'expose aussi les faits. J'expose des arguments. Vous êtes en train d'exposer des arguments.
Tu exposes ton imagination. Tu fais part de ce que tu imagines. On peut pas laisser passer ça. En revanche, moi, effectivement, les faits, je m'en tiens à ce que a révélé le Spiegel et ce qu'on veut bien nous dire. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là. Moi, je crois qu'effectivement, Cristiano Ronaldo a eu un défaut hors terrain, c'est de se laisser griser effectivement par le succès et par l'argent. Et on se souvient qu'il allait tous les étés passer ses vacances dans les boîtes de nuit à Los Angeles, en Floride, qui a eu beaucoup de riches héritières d'ailleurs, une qui a le même nom qu'une célèbre chaîne d'hôtels d'ailleurs, qui lui ont tourné autour. Alors, il a eu cette vie absolument incroyable de superstar. Et dans le lot, eh bien, on sait que parfois il y a des personnes qui arrivent avec évidemment la volonté de gagner de l'argent. Voilà, ça existe fréquemment en Angleterre, ce genre d'affaires. Avec Cristiano Ronaldo, forcément, ça prend une dimension tout à fait autre. Est-ce que c'est vrai, avéré? Est-ce qu'il va être condamné? Est-ce que ça, je sais rien. Je vais pas me prononcer sur le fond de l'affaire, puisque ça, c'est il y a des avocats spécialistes pour plaider ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que en mettant ce doigt dans l'engrenage de l'argent et de la superstarisation, Cristiano Ronaldo s'expose à des revers. Or maintenant, il a 34 ans, il est plus vers la fin de sa carrière que vers le début, et évidemment, ceux qui ont misé sur lui, qui ont gagné beaucoup d'argent, y compris les sponsors, eh ben ils vont prendre moins de risques pour le protéger. Donc il va arriver dans une période de sa carrière beaucoup plus délicate à gérer,
et
il sera moins protégé. Voilà.
Mmh. Marc, vous qui êtes un ancien footballeur, est-ce que justement...
Je suis à Las Vegas aussi, mais avec ma femme. C'était différent.
Justement, est-ce que...
Votre femme peut vous accuser de viol, sachez-le.
Ouais, mais ça n'a jamais été le cas.
Ah, c'est possible que ça arrive.
Non.
C'est possible.
Non.
Il ne faut jamais dire jamais.
On sait qu'il y a aussi, dans l'entourage des footballeurs, et on peut citer des joueurs nombreux qui, tout d'un coup, quelqu'un se rappelle à leur bon souvenir avec un enfant et ont des pensions alimentaires. Donc, ils sont, on sait qu'ils sont le centre, malheureusement, de certaines... c'est pas des manipulations, mais en tout cas, ils sont un peu piégés, quoi. C'est peut-être le cas de Ronaldo, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, ça peut entacher une image qu'il a toujours travaillé pour être parfaite.
Oui, non, mais c'est clair. Mais après, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, le joueur de football, ce sont des stars, quoi qu'il arrive, en argent, et il y a énormément de jeunes filles ou de personnes qui leur tournent en retour, qui ne sont, quoi qu'il arrive, qui ne sont pas des bonnes personnes. Et il y en a plein que vous jouiez en Ligue 1, en Ligue 2, à un autre niveau, donc à tous les niveaux. Donc plus ça monte, plus ça rapporte. Donc après, est-ce qu'il s'est fait avoir ou pas? Ça, on le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est aux États-Unis, la loi n'est pas la même si ça se passe en Europe. Croyez-moi, c'est totalement différent.
Et l'équipementier est américain.
Et l'équipementier
aussi.
Qui est
et
américain.
On est un an après l'affaire Weinstein, quand même.
Qui avait été secoué à l'époque, rappelez-vous, il y a un an avec cette affaire. Aujourd'hui, je pense qu'ils laisseront rien passer. Et si son équipementier commence déjà à dire, attendez, peut-être qu'on va se retirer, c'est peut-être qu'ils sont au courant de certaines choses qu'on ne sait pas. En tout cas, ça semble pas très bon pour l'instant. Et il faut attendre le reste de l'affaire parce que,
malheureusement, ça peut durer.
Il y a un détail qui est assez intéressant. Les journaux Der Spiegel expliquent que quand ils ont eu connaissance des documents issus de Football Leaks, ils ont contacté cette dame, Catherine Majorga, qui ne s'était pas du tout exprimée pendant des années, et elle a refusé à plusieurs reprises de dire quoi que ce soit.
Avec l'argent.
Et l'accord avait été conclu plusieurs années auparavant. Elle a toujours dit « j'ai rien à dire », alors qu'il y avait quand même beaucoup de documents très précis.
Oui, mais elle avait accepté l'argent.
Elle avait accepté l'argent. Et finalement, d'après son avocat, c'est l'affaire MeToo qui l'a un peu ébranlée, qui a remué en elle certaines choses et qui l'a conduite à estimer que finalement cet arrangement n'était pas une bonne chose et qu'elle voulait le rompre.
Je vais quand même ajouter un petit mot, parce que les gens mettent aussi de l'argent devant, oubliant que à cette période, Cristiano Ronaldo devait aussi signer avec le Real Madrid. Donc, Cristiano Ronaldo avait intérêt à ne pas faire capoter son contrat. C'est pour ça que je dis qu'il y a des circonstances atténuantes. Et deuxième des choses, dans les détails de la déposition, la dame dit quand même que, attendez, Cristiano Ronaldo s'est mis à genoux devant moi, m'a dit je suis un mec bien à 99%, 1% je ne le sais pas. Jamais de la vie je n'ai appris qu'un violeur se mette devant une femme. Le violeur t'attrape, te ligote, te plaque
Rémi, vous êtes en train d'étirer des conclusions.
Mais Rémi, ça, on ne le sait pas.
On peut pas rentrer dans le fond de l'histoire comme ça, avec autant de supputations.
En tout cas, pour sa défense, Cristiano a démenti catégoriquement. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était sur Instagram, mais il a aussi déclaré que le viol est un crime abominable. Et son avocat a déjà commencé à travailler aussi aux États-Unis. Il jouera demain contre Udinese et pour l'instant, Cristiano se montrera avec son maillot de la Juve. Décidément, la Ligue Europa ne réussit pas aux clubs français, hormis peut-être Marseille, vous vous en souvenez, l'année dernière. L'OM justement, plongé hier soir dans les affres, alors que Bordeaux et Rennes étaient battus. Ils ont tous été un peu ridicules, les clubs français hier, et Marseille notamment, joué à Chypre. Les hommes de Rudy Garcia n'ont fait que match nul 2-2 face aux Apollons de Limassol, laissant leurs supporters au désespoir sans doute, mais surtout leur entraîneur en rage.
Il y a de quoi être en colère, non? Quand on mène 2-0, qu'on a des balles de 3-0, enfin au moins une situation de 3-0, une balle de 3-1 ou une situation de 3-1, et qu'on se voit rejoindre, c'est qu'effectivement il y a des choses qui vont pas. Malheureusement, Louis a demandé à sortir, et c'est vrai que ça nous a pénalisé quand il est sorti, mais même sans Louis, on doit faire mieux sur le fait de tenir le score. Il y a eu de bonnes choses, mais malheureusement, on a tout gâché. C'est un match nul qui équivaut pratiquement à une défaite. Quand on mène 2-0 à l'extérieur, on ne peut pas se permettre de ne pas rentrer à la maison avec 3 points.
Marseille, pourtant finaliste l'année dernière. Les autres équipes en Ligue Europa, et je le rappelais tout à l'heure, une victoire sur 6 matchs européens pour les clubs français. Est-ce qu'il manque de sérieux, en tout cas en Ligue Europa, les clubs français, Marc?
C'est pas la première fois, ça fait quand même plusieurs années. On a vu l'exemple de Marseille où ça a bien marché.
On en parle souvent dans le Café des Sports, comme ils jouent le jeudi, c'est le sujet du vendredi.
Non mais après, quand on voit les conférences de presse de l'entraîneur de Bordeaux ou du manager de Bordeaux, enfin on peut pas l'avoir le manager mais l'entraîneur Bédoué, qui nous explique que les joueurs sont fatigués. Hier soir encore une fois, Rudy Garcia nous explique que Strootman est vraiment fatigué. Donc je sais pas comment je faisais moi au mois d'octobre, et il fallait pas que je sois fatigué. En fait, on nous explique qu'aujourd'hui au mois d'octobre, un joueur de foot après 10 ou 11 matchs, il est fatigué. Je ne comprendrai jamais. Hier soir, j'ai entendu.
Mais les Chypriotes n'étaient pas fatigués. Kazakhs n'étaient pas fatigués.
Il faut partir en Angleterre ou en Écosse pour ne plus entendre ce genre de discours dans le vestiaire. Annie, vous savez, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Écosse, première ligue, j'ai tout fait. On n'entend jamais ça. Nous, quoi qu'il arrive, l'entraîneur hier soir, Bédoué, qui a dit non, mes joueurs sont fatigués, vous rendez compte, c'est le 11e match. Ah bon? Mais quand on fait une préparation de 6 à 8 semaines, c'est pour tirer le maximum jusqu'à... Moi, je sais, je fonctionnais, je mets 6... Moi, il me fallait 8 semaines pour être au top. Après mes 8 semaines, donc après 2-3 matchs...
L'été,
de toute façon,
la préparation, l'été.
On démarre vers le 20 juin. Et 15 août, j'étais bien. Mais je tirais jusqu'à fin novembre et début décembre, je commençais à tirer la langue. On repartait en vacances une semaine. Après, on refaisait une grosse préparation. Il fallait encore un mois. Là, on nous explique qu'en octobre, ils sont rincés. Strootman, on nous a dit, Rudy Garcia qui a dit, vous rendez compte, Strootman? Mais il est trop fatigué. Ah bon? Mais alors, s'il est fatigué, mais alors, vous savez quoi, qui change de, je sais pas, qui se mette au ping-pong? Non, mais c'est, on entend ça en octobre.
Là, c'est le cœur marseillais.
Et encore
qui
une
parle.
Fois, c'est pas le cœur marseillais, c'est qu'on rencontre qui? On a rencontré qui? Arsenal, la Juventus, on a rencontré Limassol, on a rencontré, je vais taire les autres. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Et on nous dit, mais Astana, c'est loin. Mais vous croyez qu'ils courent en charter, les mecs? Les mecs, ils ont des avions, le fauteuil, il fait 8... Non, mais c'est pas possible qu'ils arrêtent de nous prendre. Ils leur font les soins dans l'avion, ils ont les machages dans l'avion, et on nous dit, ah, mais ils sont fatigués. Et on nous a dit, ah, dans 72 heures, on joue, on va être fatigué. Alors donc, si on est fatigué, il faut plus jouer au football.
Xavier, est-ce que c'est un manque de sérieux de la part des clubs français, de la part des joueurs?
Alors, il y a
est-ce
eu,
que la Ligue 1 est ridiculisée finalement sur le plan européen?
Alors, les résultats effectivement sont catastrophiques, ça c'est clair. Mais après, il y a le contenu des matchs. Bordeaux a vraiment joué de malchance.
Non, mais il y a le résultat et les classements dans les groupes.
Je suis d'accord, c'est ce que voilà, donc les résultats sont effectivement mauvais. Mais il y a eu le contenu des matchs. Bordeaux, ça a été plutôt bon, vraiment, ils n'ont pas eu de chance. Bon, l'OM, c'est un peu moins défendable. Quant à Rennes au Kazakhstan, ça c'est pareil, ça s'est joué à peu de choses. Maintenant, il y a un autre élément important que je répète à chaque fois qu'on évoque effectivement l'Europa League dans le Café des Sports, puisque c'est souvent, comme vous le dites Annie, le jeudi soir, donc on en parle le vendredi, c'est une logique économique. La logique économique, c'est que l'Europa League est une compétition qui ne rapporte rien, qui coûte même de l'argent quand vous devez affréter un avion privé pour aller au Kazakhstan, 200 000 euros hein, pour affréter l'avion, pour amener les joueurs du Stade Rennais à 6 000 km de la Bretagne. Et à l'arrivée, c'est une compétition donc qui ne rapporte pas d'argent, alors que le championnat de la Ligue 1...
Mais alors pourquoi
avec
c'est facile 700... pour se qualifier?
Il faut plus qu'il la joue alors. Parce qu'ils espèrent aller en Ligue des Champions. Surtout voilà pour l'OM, un peu moins pour Rennes et pour Bordeaux. Mais ils espèrent aller en Ligue des Champions. C'est ça l'objectif, parce que là, c'est une compétition qui rapporte de l'argent. Donc, quand ils sont en Europa League, ils se disent « Bon, on va la jouer, ça va nous faire un peu d'expérience, ça va permettre de faire tourner l'effectif, ça va permettre de donner de l'expérience aux plus jeunes. » Mais financièrement, ça leur rapporte rien. Jouer et Rennes, la démonstration. Rennes a laissé Ben Arfa et je sais plus quel autre titulaire.
C'est normal, il est pas bon.
Peut-être, mais bon, ils l'ont laissé.
Actuellement, il mérite pas de jouer.
Ils l'ont laissé à Rennes parce que de toute façon, ils savaient que ce serait une opération compliquée.
Alejandro, est-ce que la Ligue 1 finalement montre un mauvais visage ou c'est un accident?
Bah, je pense qu'il y a eu peut-être des matchs, comme le disait Xavier, celui de Bordeaux, il y a peut-être eu un peu d'accident parce qu'ils ont vraiment pas eu des chances.
Oui, le but,
en tout cas,
le vainqueur.
Les clubs français s'est tiré une balle dans le pied parce que, à force d'obtenir des mauvais résultats, le classement UEFA va descendre alors que les concurrents de la France, que sont par exemple la Russie ou le Portugal, ont obtenu quand même des meilleurs résultats et finalement on va peut-être perdre la troisième place en Ligue des Champions un jour si on continue comme ça.
Pas tout de suite puisque maintenant c'est fait sur 10 ans, ils ont changé le mode de fonctionnement, c'est plus sur 5 ans mais sur 10 ans, donc ça étale plus les variations et ensuite là c'est gelé pour 4 ans suite au nouvel accord qui a eu lieu aux dépens de la France d'ailleurs, qui permet à l'Italie d'avoir 4 clubs en Ligue des Champions.
Ils le méritent parce qu'ils ont eu 4 victoires sur 4 matchs. Rémi, les clubs français, selon vous, est-ce qu'ils ont été ridicules? Est-ce que ça reflète un mauvais niveau de la Ligue 1 ou vous êtes plus modéré?
Première journée, 2 victoires, 4 défaites. Deuxième journée, et là, on est déjà, faisons le bilan. 12
là,
matchs.
C'est deuxième journée, 12 une seule victoire.
12 matchs, 8 défaites. 11 points pris sur 36 possibles. C'est-à-dire échouer, rétrogradé.
Je me doutais que vous ne seriez pas modéré.
Non. Il faut qu'on soit clair. Même quand on me parle de la prestation de Marseille l'année dernière, les gens oublient que Marseille, c'est de justesse que Marseille se qualifie. Parce qu'après avoir été battu par Salzbourg, ils font un match pitoyable contre Guimarães du Portugal et où Mandanda fait des miracles au Campos réussit à marquer. Donc, c'est par là que Marseille réussit à mettre le pied sur l'étrier.
De leur chemin un peu chanceux.
Aujourd'hui, on me dit que Bordeaux, il faut regarder le contenu, mais n'oublions pas qu'au premier match, Bordeaux, un seul tir cadré, c'était à la 85e minute. Ouais. Et quand on essaie de regarder ce qui se passe avec Marseille aujourd'hui, en réalité, c'est exactement quand vous regardez les clubs de Chypre, ils jouent mieux que les clubs de Ligue 1. Et ça, je peux le dire, parce que même Lyon, qui est une équipe qui évolue bien en Europe et qui, par exemple, était partie même battre, par exemple, une équipe anglaise l'année dernière, comment est-ce qu'on appelait ça, et tout, 5 ans, mais à Chypre, ils ont été incapables de revenir avec une victoire. Cela veut dire quoi? Quand vous regardez...
Tu mélanges l'OL et l'OM, là, non?
Non, c'était l'OL. Donc, c'était l'OL. Donc, quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui,
en 2012,
on vous fait quand même comprendre que la France était 4e au classement UEFA et que l'OM d'aujourd'hui était en train de jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern en 2012. Et ça... l'OM, aujourd'hui, est en train de jouer contre une équipe dont le plus grand joueur avait un nom de sardine. Il s'appelle Sardinero. Sardinero. À partir de cet instant, j'ai dit, il faut manger l'OM dans la sauce. Mais c'est pas possible. C'est lamentable. C'est pitoyable.
On l'a perdu, là. Hein. On l'a complètement perdu. Je sais pas si c'est l'affaire Cristiano Ronaldo qui a déboussolé Rémy Nkono, mais
c'est
là,
pour
vraiment,
ça que les autres comprennent mieux que toi.
Ah oui, bah là, je crois qu'on est tous perplexes parce qu'on sait plus quoi dire, parce qu'on a rien compris.
Mais toi, tu n'as jamais rien compris.
Il y a un élément important, c'est puisque Rémy Nkono faisait allusion au club chypriote, c'est la même chose pour Astana. Ça, c'est des clubs qui sont construits avec de l'argent dont on connaît pas toujours la provenance d'ailleurs.
Souvent,
qui font venir beaucoup de joueurs, des joueurs étrangers, qui dans leur championnat d'ailleurs ne peuvent pas tous jouer parce qu'il y a des quotas. J'ai fait un papier sur Astana cette semaine, donc ils ont droit qu'à 5 étrangers sur le terrain.
Astana, c'est pour le cyclisme.
Et bien non. Astana,
tu peux couvrir les tournois de cyclisme, mais tu viens mettre ça
Astana,
dans le
Astana, justement, si tu avais lu mon article, c'est un club décidé depuis 2012 par le président de la République du Kazakhstan. Il s'appelle d'ailleurs Club Présidentiel, qui a décidé de mettre de l'argent dans le cyclisme, effectivement, mais aussi dans la course automobile, dans la boxe, dans le basket et dans le football. Et le FC Astana, ils mettent beaucoup d'argent. Hein, les contrats, c'est $1 million par année pour des joueurs moyens. C'est bien, à partir $1 million. Donc les gars, ils y vont parfois juste pour jouer justement l'Europa League, parce que en championnat, comme il y a un quota, ils n'ont pas le droit de mettre plus de 5 étrangers par match. Donc du coup, les gars, ils ne jouent en fait parfois que tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc forcément, quand ils reçoivent Rennes, les gars, ils sont comme des morts de faim.
Ils sont pas fatigués.
Voilà. Non, mais après là, je crois qu'il faut oublier le paramètre de l'argent, parce que c'est pas forcément l'argent qui va t'envoyer dans certains pays ou certaines régions. C'est juste que c'est l'envie, c'est l'âme de certains joueurs qui ont envie de jouer. Hier soir, quand on voit le match de Marseille, cette équipe-là, il y a une faille. Luis Gustavo sort parce qu'il est rincé, parce qu'il est fatigué, parce que Rudy Garcia le fait jouer en défense centrale. Il a pas l'air content de sortir parce qu'en finalement, on le retrouvait, il marque un but, on le retrouvait un petit peu plus haut alors que la plupart du temps, il était dans ses 30 derniers mètres. Et puis, du coup, ce club-là se met à jouer Limassol tranquillement et puis ils mettent 2 buts parce que ils ont du cœur, ils ont de l'envie parce que les Marseillais, c'est bon, on a plus besoin de jouer. Mais le haut niveau aujourd'hui, quand on rencontre Limassol, le PSG, Liverpool, si on n'est pas
concentré
à 100%, on voit des retournements. Et là, on se dit, ah bah 2-0, mais le troisième, on n'arrive pas. Mais c'est pas grave. Et puis à l'arrivée, ça donne ce genre. Parce que le premier but, il est magnifique. Ils mettent quand même cette lucarne magnifique. Et puis après, le but de la défense, c'est autre chose. Mais si on n'est pas à 100% concentré, on passe à travers.
Allez, continuons notre tour des footballs européens. Et cette fois, on va prendre la direction de l'Angleterre parce qu'il y a un match qui promet beaucoup pendant le week-end. Encouragez Mohamed Salah, et oui, parce que les Reds sont sur le grill. Une fois encore, l'équipe de Liverpool se retrouve dans un match capital. Et ça leur arrive beaucoup en ce moment. Dimanche, eh bien, ce sera une confrontation avec les Sky Blues, les Citizens, qui les devancent de quelques buts au classement de la Premier League, où ils sont à égalité de points, mais avec City devant Liverpool. Un match au sommet, comme presque à chaque fois ces temps-ci, confirme Jürgen Klopp.
Oui, ça va être une rencontre difficile. Vous avez vu, c'est une période dingue. Depuis la fin de la trêve internationale, on a eu à affronter Chelsea 2 fois, il y a eu le PSG, puis le déplacement à Naples, puis la rencontre de dimanche contre Manchester City. Il faut faire avec tout ça, on n'a pas le choix. Il va falloir faire en sorte d'être prêt. 3 jours de récupération et voilà que le match de City arrive. On est dans le dur en permanence, on le sera à tout moment cette saison. Ça n'est jamais facile contre les Citizens. Et puis il faudra voir après si tout le monde va bien, analyser la rencontre, voir s'il n'y a pas de blessés. On est prêt pour cet affrontement dimanche et on aura tout le public pour nous encourager, parce que vous avez vu que Naples a bien été soutenu par les spectateurs, a bien utilisé l'ambiance et on n'a pas pu faire face. Mais vous le verrez dimanche, on sera à 100%.
Et oui, ce public d'Anfield qui chante si bien ne sera pas trop pour pousser les Reds qui, ces temps-ci, Alejandro, alors il fait allusion à Naples, mais ils avaient été battus par les Blues avant d'obtenir un match nul. D'ailleurs, ils ont commencé le championnat très fort et puis là, ils ont perdu. Alors évidemment, ça se note beaucoup, deux petits points face à Chelsea. Et du coup, ben, on se demande sur quel pied dansent un peu les Reds en ce moment.
Oui, ils sont peut-être un peu fatigués. Là, ils ont peut-être le droit, vu
la
qualité des matchs
qu'ils rencontrent aussi,
disputés tous les 3 ou 4 jours. Donc, c'est quand même pas facile. C'est un match très intéressant parce que déjà l'année dernière, Liverpool avait pris la mesure de cette équipe de Manchester City. Donc je pense que du côté de Manchester City, de Guardiola, il y a une envie de revanche dans ce déplacement. City qui a couru un gros risque, qui ne s'est pas sorti facilement de sa journée en Ligue des Champions, mais qui a fini par gagner. Et qui, à mon avis, a une belle carte à jouer face à un Liverpool qui commence à être un peu fatigué.
Si on peut préciser, Klopp, c'était après la défaite donc au Napoli. Donc ils viennent de perdre. Il explique que quoi qu'il arrive, il sera à 100%. Il dit pas, attendez, c'est fatigué. Non, mais ça commence déjà par là. Et eux, croyez-moi, les équipes qu'ils rencontrent, on les a citées. C'est pas n'importe quoi. Mais on sera à 100%. Vous inquiétez pas. C'est dans 72 heures. On va répondre présent. On va redémontrer l'état des forces des uns des autres. Ça, c'est totalement.
C'est la mentalité, l'esprit.
En tout cas, peut être un vrai tournant de championnat.
Et oui, parce que en fait, ce qu'on peut se dire peut-être, Xavier, c'est que là, il y a presque en jeu. Je disais tout à l'heure, non seulement la première place de la première ligue à l'issue de cette huitième journée, mais il y a peut-être aussi pratiquement le championnat, parce qu'on sait que c'est ce qu'on appelle les matchs à 6 points où il faut tout engranger contre le pire adversaire.
Oui, clairement, on sentait venir ce duel cette saison.
L'an dernier
L'an dernier, Liverpool était un peu en retrait par rapport à Manchester City, qui était irrésistible, même si sur les
Ils les ont battus
effectivement. Ils les ont surtout éliminés en Ligue des Champions.
Ouais, mais
parce qu'en
championnat,
n'oubliez pas que le Manchester City-Liverpool, ça fait 5-0. Alors ok, Sadio Mané est exclu, mais ça fait quand même 5-0. Alors au retour, effectivement, Liverpool prend sa revanche et gagne 4-3. Oui. Mais le match aller, Manchester City gagne 5-0. Donc, si vous voulez, ces deux équipes-là, qui cette saison ont vraiment l'ambition de... On les sentait partis pour faire le match en tête. Liverpool a calé la semaine dernière contre Chelsea, qu'ils ont rencontré deux fois en peu de temps, ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue. Donc quand Jurgen Klopp dit effectivement que ces joueurs, bon, ils ont pas mal de rendez-vous importants qui s'enchaînent entre la Ligue des Champions, l'élimination de la Coupe de la Ligue par Chelsea et puis le match de championnat contre Chelsea, c'est vrai que ça s'est enchaîné très vite avec des gros rendez-vous. Manchester City en revanche a eu un calendrier un peu plus light en ce début de saison. Ils se sont fait surprendre par Lyon chez eux en ouverture de la Ligue des Champions. Depuis, ils sont allés reprendre les points à Hoffenheim. Et donc, c'est un vrai premier test intéressant pour Manchester City cette saison. Moi, je suis très curieux de voir ce que vont faire les Sky Blues de Pep Guardiola sur la pelouse de Liverpool.
Rémi, vous êtes plutôt rouge ou plutôt bleu ?
Ah, bien sûr que je suis red, parce que on me parle toujours de Pep Guardiola, super entraîneur, et quand il est en train de vouloir évoquer la saison dernière, il faut plutôt dire que c'est Jurgen Klopp qui, au premier match, n'avait pas encore une équipe prête. C'est pour ça d'ailleurs qu'en infériorité numérique, il perd logiquement. Mais par la suite, il faut quand même constater que il marque combien de buts contre ce Manchester City de Pep Guardiola? 4+3+2. En 3 matchs, c'est lui, c'est-à-dire que si on essaie de noter, il a 75% de victoires sur Pep Guardiola. Et quand on essaie de regarder toute la carrière, même leur confrontation, regardez, c'est combien de confrontations? C'est 14 confrontations. Et les premières confrontations, il est gagné. Cette fois-ci, c'est 8 victoires pour Jurgen Klopp. Ce qui signifie qu'il a un 2. Il a aujourd'hui un plus par rapport à Pep Guardiola. Et moi, je crois
qu'il a encore... Vous avez une obsession avec Guardiola.
Ah oui, mais attends. Ouais. Je ne donne que des chiffres. Et des vérifiables.
Bon, j'en ai que 7, moi, des victoires. Mais bon, les chiffres de Rémi Ngolo...
Donc, de toutes les façons, tu sais que toi, tu as toujours un retard par rapport à ça.
Justement, je les ai mises à jour cet après-midi.
Je te fais comprendre. Donc, c'est 8. La preuve, c'est que tu ne le savais pas. Il y a combien de confrontations entre eux? Et il y a quand même confrontation.
Tu as peut-être déjà anticipé une victoire de Liverpool ce week-end. Moi, je prendrai pas les paris.
Si tu vois donc déjà ça, tu vois bel et bien qu'il est au-dessus et par rapport à cela. Donc, de toute la façon, il y a un proverbe africain qui dit, il n'y a que le chien qui attrape le lièvre. Donc, aujourd'hui, c'est Jurgen Klopp qui sait fouetter Pep Guardiola correctement.
En tout cas, un chiffre aussi, mais depuis 2003, eh bien, les Citizens ne gagnent pas à Anfield. Donc, c'est un chiffre qui, quand même, peut donner à réfléchir.
Rémi a trouvé un nouvel héros, comme Mourinho est un peu hors course.
Non, aujourd'hui, pas de Mourinho, pas d'Arsène Wenger. On passe à autre chose. On va passer à un autre match de championnat. Et cette fois-ci, eh bien, c'est en France avec l'Ogre PSG, fort de ses 8 victoires en 8 journées, qui reçoit les Lions, des Lions moins enragés hein, depuis leur match face au Shakhtar Donetsk, que je vous rappelle, sur le score de 2-2, un match assez spectaculaire, mais pas franchement en l'honneur, enfin en tout cas dans les ambitions des Lyonnais. Ces Lions qui sont en tout cas en Liga 5e, est-ce qu'ils peuvent secouer Paris, peut-on se demander, qui sait faire un gros coup comme à Manchester City. Bruno Genesio en tout cas réfute les critiques qui ironisent sur son équipe à deux vitesses.
Je pense qu'on est tombé dans des clichés nous concernant parfois et que ça arrange bien une certaine frange de personnes, donc je n'exagérerai pas non plus. On vient de faire 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls. On a gagné à City, on a 4 points en Champions League, on a joué 2 belles équipes, donc il faut pas non plus exagérer les clichés, parce que ce cliché d'équipe inconstante qui choisit ses matchs, je rappelle que l'année dernière on a fait quand même 9 victoires sur les 10 derniers. Donc le visage qu'on va afficher dimanche, c'est difficile de le dire avant, mais en tout cas ça sera une équipe ambitieuse qui ira au parc face à une des meilleures équipes européennes, mais on y va pour jouer crânement notre chance.
Une équipe ambitieuse. On sait que de toute façon Lyon est très motivé par les grosses affiches, et l'année dernière le PSG s'en souvient. Marc.
Oui, c'est vrai. Après
ce but de Depay à la fin qui leur avait donné la victoire.
Ouais, mais malheureusement il se contredit un petit peu, Genesio, puisque c'est la veille de la Ligue des Champions, la conférence de presse, il nous explique que quoi qu'il arrive, il a aucun problème puisque ces joueurs là vont être concentrés puisque c'est la Ligue des Champions. Il nous explique après la défaite à Caen, enfin le match catastrophique, c'est pas une défaite, mais bon, à Caen. Il nous explique qu'il ne comprend pas ses joueurs, qu'ils sont en train de choisir leur match et que certains, il va les mettre sur la touche pour les piquer au vif comme Depay, comme il a fait le week-end dernier. Donc après, je veux bien que cette équipe-là soit réaction. Et pour revenir sur les 9 derniers matchs, sur les 10 derniers matchs de la saison où il y a 9 victoires, c'est parce qu'il faut rattraper Monaco et Marseille. Autrement, donc cette équipe, elle est à réaction. Je pense pas qu'ils sont capables aujourd'hui de perturber cette équipe de Paris qui est vraiment au-dessus du lot. Je vois pas qui peut le faire. Alors Liverpool l'a fait parce que c'est encore un contexte, un environnement. Mais aujourd'hui, avec toute la bonne volonté de ces jeunes Lyonnais, ou des vieux Lyonnais, quoi qu'il arrive, je vois Paris s'imposer face à Lyon.
Rémi, est-ce que vous imaginez que Lyon pourrait venir gagner au Parc des Princes et infliger sa première défaite, voire un premier match nul aux Parisiens ?
Autant le Paris Saint-Germain ne me paraît pas aussi convaincant, bien que gagnant tous ses matchs, autant Lyon, contrairement à ce que Genesio dit, est véritablement inconstant, parce que même ce match nul qu'ils obtiennent là, c'était pas exactement ça. Donc c'est pour ça que moi je dis, le match me paraît encore très indécis, parce que c'est pas le Paris tout flamboyant qui viendrait totalement en tant que rouleau compresseur pour écraser Lyon, j'en doute. Donc mais par contre, je crois que Lyon, si Lyon joue véritablement sa chance comme ils ont eu à le faire contre Manchester City, ils peuvent bien s'en sortir. Donc, pour moi, je suis vraiment indécis par rapport à ce match-là. Mais malheureusement, les matchs du Paris Saint-Germain, même quand ils jouent mal, même quand ils sont menés en France, à la dernière minute, dans les 10 dernières minutes, eh bien, l'équipe adverse se dit toujours que, bon, de toutes les façons, on est venu pour obtenir un nul. Et par la suite, ils obtiennent la défaite et ils s'en vont en disant, on a bien mouillé le maillot.
Alejandro.
Ben moi, je me dis que Lyon reste quand même la seule équipe aujourd'hui dans le championnat de France qui peut embêter un petit peu le PSG. Donc, j'espère qu'ils vont le faire, ne serait-ce que pour la beauté de ce championnat.
On n'y croit pas trop quand même.
On n'y croit pas trop. Mais bon, Lyon a surpris City, donc pourquoi pas. Mais ça paraît quand même très, très compliqué.
Ah, s'ils ressortent le même match effectivement qu'à Manchester City, on peut espérer un vrai match.
À parce City, que moi, ça s'appelle un exploit.
Oui.
L'exploit, c'est pas tous les 15 jours. Il faut voir Papa Noël, faut voir la Vierge, Jésus, faut tous les voir. Là, c'est faut monter à l'entraîne de la garde. Là.
C'est vrai. Maintenant, il faut aussi regarder l'autre côté, le PSG. Moi, je suis au Parc des Princes à tous les matchs. Là, ils sont baladés contre Reims, contre Saint-Etienne. À chaque fois, ils se baladent. Donc là, ils vont avoir pour la première fois en championnat de France, ils ont eu un match difficile à Liverpool, c'est tout, depuis le début de saison. Ils vont avoir pour la première fois depuis le début de saison un adversaire a priori capable de leur tenir tête. Donc je suis très curieux de voir ce match dimanche soir.
Je ne vois pas qui peut tenir tête à Paris aujourd'hui. Je suis désolé pour Lyon. Je me dis, il y a peut-être 3%. Mais après, c'est pas possible.
La saison dernière,
Paris, ils sont à 70%. Ils marchent sur la Ligue 1, mais comme si de rien n'était, tranquillement.
Neymar est en train de monter un peu.
Il est même pas à 100%. Il fait ce qu'il veut aujourd'hui. Donc, tu vois, je me dis aujourd'hui, est-ce que Lyon va tenter le coup de, oulala. En plus, que tu sais que quoi qu'il arrive, pour l'avoir vécu, tu viens sur une terre où tu peux en prendre 3, 4, 5, 6. Et tu sais que c'est le topo aujourd'hui.
Oui, donc, minimum, tu n'attaques pas.
Voilà, exactement. Donc, tu n'attaques pas le match comme si tu te dis, tiens, je vais Marseille, je peux faire un coup ou tu vois, là tu sais que ça peut aller très très vite et tu peux être 3-4-0 à la mi-temps, donc tu joues différemment.
On aura aussi affiche intéressante, Lille face à Saint-Etienne, alors intéressante en 2018, en cette 9e journée, Marc, mais si, parce que Lille est 2e du championnat, avec cet amusant Christophe Galtier qui est l'ancien entraîneur de Saint-Etienne, et des Verts qui vont plutôt pas mal en ce championnat. Et puis, je peux pas m'empêcher de vous faire un petit clin d'œil, Xavier, sur une autre affiche, Bordeaux. Alors Bordeaux, on sait qu'ils vont pas très bien, mais alors qui reçoivent une équipe qui va pas trop bien non plus et qui s'appelle Nantes, vos chers Canaries, mais des Canaries qui viennent d'obtenir un coach très particulier, puisque c'est Coach Vahid.
Coach Vahid, effectivement, qui a été un attaquant flamboyant du grand FC Nantes dans les années 80 et qui m'a fait beaucoup rêver, puis qui ensuite est parti au Paris Saint-Germain. Alors ce qui est assez étonnant, c'est
flamboyant comme entraîneur aussi.
Mais quand même un entraîneur qui pratiquait pas forcément un jeu très flamboyant, mais qui un entraîneur extrêmement exigeant. Donc
dans sa manière d'être.
Ah oui, très expressif. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage que la greffe avec Miguel Cardozo n'ait pas marché, parce qu'il avait vraiment la volonté de faire jouer les Canaries, comme ils avaient cette tradition de beaux jeux qui avait un peu disparu. Et donc on va revenir, je pense, avec Ali Lodzi, qui a un jeu beaucoup plus engagé, beaucoup plus sérieux, si on peut utiliser ce terme, probablement moins flamboyant, mais dans l'urgence actuellement, c'est que Nantes remonte au classement.
En Italie, il y aura aussi un match intéressant entre Naples et Sassuolo, qui est une équipe qui est
surprise voilà, début de saison. Ouais.
Dans ce championnat, vous voyez, c'est un peu comme Lille Saint-Etienne.
Ils avaient déjà été très bons il y a deux ans, Sassuolo.
Après,
comme c'est pas un club qui a, même s'ils ont le soutien de la Mapei, qui est une grosse société en Italie,
s'occupe du vélo.
Voilà, ils ont aussi.
Non, mais
c'est des multinationales.
Astana, Mapei.
C'est une bonne reconversion.
On peut préciser.
J'ai bien dit aux gens, et d'ailleurs sur ma page Facebook, je le signale, que Xavier Barré de plus en plus a oublié le football pour le vélo.
Et il vient comment ici?
Il vient pédaler
en vélo.
Il vient toujours en vélo.
Voilà.
Comme Rémi perd souvent les pédales, il met ça.
Allez, la session carton, bien sûr.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
À vous l'honneur, Marc Lesbras.
Je sais pas la couleur là que je peux donner.
C'est à vous de décider.
C'est pour Marianne Maco. C'est la première qui m'a interviewé. C'est
rouge
la première.
Comme un cœur alors.
Ouais, comme un cœur, ouais, comme je peux
rose,
lui mettre toutes les couleurs, je peux lui mettre, parce que pour la première fois, je me suis dit merde, je suis vieux quand même. Parce que c'est la première qui m'a appelé, qui est venue chez moi faire une interview, c'était Téléfoot à l'époque, et ça m'a fait énormément de peine, ça m'a touché à un point. J'ai arrêté le foot parce que j'étais au bord du gouffre à 32 ans, je voulais plus courir, j'en avais marre, tout me gonflait. Et ça m'a fait un flashback énorme quand j'ai appris qu'elle était partie, et mes deux premiers interviews, dont le premier qui était assez marquant, et puis un an après, où elle est venue chez mes parents aussi, dans le Var, pour faire une interview et ça m'a marqué. J'étais très peiné et puis voilà, donc j'ai
Marianne Maco, une de consoeurs, ouais,
une des toutes premières,
et la première à la télévision à parler de football,
qui ne se mettait pas souvent
hommes.
Puisque j'ai, il y a pas longtemps, d'ailleurs on m'a renvoyé les interviews de l'époque. Elle parlait, on la voyait jamais, elle se mettait jamais en avant, toujours très douce, très gentille. Elle rentrait dans les vestiaires à l'époque, parce que c'est une époque où on pouvait rentrer dans les vestiaires quand de l'époque Tapie, elle affrontait Tapie, quand on perdait, elle rentrait, certains restaient dehors de l'époque. Mmh. Et voilà, donc c'était un, voilà, c'est une grosse pensée pour elle et toute sa famille.
Mmh. Xavier Barré.
Bon, après c'est plus compliqué, mais moi je vais pas prendre de risque. Je vais donner un carton vert à Neymar, parce que je trouve qu'on l'a beaucoup taillé ces derniers mois, pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein, notamment lors de la Coupe du Monde avec ses plongeons à répétition. Et là, il est vraiment en train de réaliser un début de saison assez remarquable, avec surtout un état d'esprit qui change. Vraiment, qui donne envie de le suivre, de le regarder jouer, de revenir le voir jouer au Parc des Princes ou ailleurs.
Même à se prêter aux interviews. Hier, il s'est arrêté, notamment après le match, devant le micro des journalistes qui peuvent parler dans sa langue avec lui.
Il a même fait la conf de presse la semaine dernière. Bon, il n'a pas été forcément très loquace, mais bon, il est, on sent qu'il est vraiment dans une autre dynamique, vraiment plus positif, plus collectif, et c'est ça qui est important dans le football. Donc, carton vert, en espérant qu'on puisse lui en remettre un d'autres au fil de cette saison.
C'est dommage qu'il ne joue pas avec Cavani. C'est dommage.
Et c'est dommage qu'il ne se mette pas à parler français.
Peut-être qu'il prend des cours, mais avec sa femme, ils vont apprendre le français. Son ami, pardon, sa compagne. Rémi Ngono.
Abdou Ordo, de ma page Facebook Rémi Ngono officiel, donne carton rouge au beau couple Amad Amad Samuel Eto'o. Notre Amad Amad, président de la CAF, avait juré que lui ne se mêlerait jamais de ce qu'on appelle donner où on retire la CAN, où le Cameroun conserve la CAN, avant l'élection présidentielle du 7 octobre, parce qu'il ne voulait pas la perturber. Mais hop, voilà Amad Amad qui venait de faire l'interview dans le journal Le Monde Afrique, qui se retrouve au Cameroun, au milieu de la campagne présidentielle, reçu par le chef de l'État pour faire de la campagne, et par la suite il sort pour nous dire que non, en tout cas, il n'a pas vu les routes qui étaient mauvaises et tout, et tout, et tout. Donc, on comprend maintenant, Amad Amad, merci pour avoir aidé Biya. Comme le dit un proverbe africain, le cochon n'insulte jamais la poubelle qui lui donne à manger.
C'était un carton rouge, c'est ça?
Rouge, complet.
Alejandro Valente.
Moi, j'allais donner un carton vert à Messi, comme Xavier s'est lancé avec Neymar, parce qu'il a prouvé encore cette semaine qu'il est le plus fort. Mais non, je vais donner un carton vert à la CAF pour faire un peu contrebalancer Rémi, parce que la CAF a décidé d'introduire l'assistance vidéo à l'arbitrage pour les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Je trouve que c'est audacieux. Ce sera fait dès cette année. Pour une fois, la CAF double l'UEFA dans cette quête technologique. Donc c'est intéressant.
Plus fort que les Européens. Un carton. Alors on s'est interrogé aussi sur la couleur. Décidément, c'est la journée. Mais on s'est dit qu'on avait envie de mettre un carton rouge à un arbitre quand même à Radio Foot. Mais pas n'importe quel homme en noir, parce que vous le verrez sur les réseaux sociaux, c'est un arbitre qui a inscrit un but. Il a inscrit un but de la tête. Alors c'était amusant. En plus, le but a été accordé. Vous le savez, l'arbitre appartient au jeu. C'était en fait au Daghestan, un match amateur, mais qui a été filmé, et entre l'équipe de Keyes et de Manas. Et tout d'un coup, eh bien, il avait accordé un penalty. Le penalty est arrêté par le gardien. Et quand il le dégage sur la tête de l'arbitre. Et l'arbitre, sans le vouloir, marque de la tête.
Ah non, la barre.
Et du coup, ça a fait 4-4. Bon, ça va. Il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu. Mais c'est vrai que c'est très amusant. Et on le mettra sur la page Facebook de l'émission, parce que c'est quand même rare arbitre marque un but. Et en plus qu'il soit obligé de l'accorder. Donc on a trouvé ça très amusant, c'était pas banal, mais on aurait pu mettre aussi un carton vert à Karl Toki, Toko et Kambi.
Ah oui, ça réveille.
Qui marque, hein, qui a marqué avec son équipe hier en Ligue Europa. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci Rémi, Xavier, Marc, Alejandro. Rendez-vous ce week-end, n'oubliez pas, Mondial Sport, samedi et dimanche soir, 23h30, heure de Paris, 21h10, en temps universel. Merci aussi à David Finzel et Pierre Guérin, qui m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation. Et on vous dit à lundi.